Alors, oserais-je vous appeler l'ami Mishka,
Oui.
comme le fait si bien votre collègue Laure Adler sur
Ah.
France Inter?
Ah ben ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Vous savez, c'est la chose la plus surprenante dans mon expérience de radio, c'est que j'ai une multitude d'amis que je ne connais pas. Vous voyez, là, vous êtes là face à moi, donc maintenant je vous connais, mais je pense que je dois en avoir pléthore sans pouvoir évidemment mettre de nom et de visage sur eux ou elles.
Parce que dans ma besace,
Oui.
j'ai plein de bonjour à vous dire.
Ah
De mes
ben.
cousins,
Ah
de mes amis, de. Tu diras, monsieur Assas, le bonjour de notre part,
ben merci.
on l'écoute, donc.
Oui, moi je leur dis bonsoir tous les soirs, évidemment c'est facile, c'est une fois pour toutes, mais ben d'accord, ben merci.
Mais à quel âge avez-vous ressenti vos premières émotions musicales?
Alors très tôt, je crois que c'était enfant, ma mère avait rapporté un 45 tours album hein, qui s'appelait Rondes et chansons de France. Et il y avait auprès de ma blonde, Nous n'irons plus au bois, toutes ces Bon voyage, Monsieur Dumolay, enfin toutes ces chansons. Archaïque, qui était très joliment interprété par Lucienne Vernet et les Quatre Barbus. Et c'était de très jolies voix, et c'était vraiment, en tout cas, c'était un premier souvenir conscient. Et alors, pour la musique qui nous réunit ce soir, enfin aujourd'hui, ce serait plutôt un disque de Twist que ma mère avait acheté. C'était un. Alors, je vous rappelez peut-être ces formats intermédiaires entre le 45 tours et le. Enfin, entre le 17 cm et le 30 cm qu'on appelait le 25 cm.
Oui.
C'était des disques, évidemment, vinyle, évidemment, de taille moyenne. Et donc, c'était un disque, je ne sais pas où elle l'avait trouvé. Il y avait une jeune femme qui se déhanchait en une espèce de tailleur Chanel. Ça s'appelait Dansons le Twist. Et je me rappelle qu'il y avait une chanson qui s'appelait Oupoupedou. Et c'est une chanson un peu dans le style de Fats Domino, un peu traînante, Nouvelle-Orléans, un côté un peu débonnaire comme ça. Et il y avait une sorte, et ça me donnait envie de me déhancher moi aussi. Et ça apportait une joie dans la maison, quelque chose de coloré, d'explosif, qui ne correspondait pas du tout à ce que je percevais à l'école, dans le monde des adultes, enfin, il y avait quelque chose de comme un diable qui sortait d'une boîte, si vous voulez. Et c'était magique. Et donc, je me souviens que je voulais toujours écouter cette chanson. C'est une confidence qui m'est arrivée de faire. C'est, vous savez, mon père tenait un journal intime, et je le lisais parfois en cachette. Et alors, des années plus tard, évidemment, et à un moment, il a écrit: Mishka, écoute le twist comme un wagnérien la tétralogie. Voilà, Et effectivement, ça, je crois que ça résume bien cet émerveillement, ce côté, on parlait de côté sacré de la musique, vous voyez, il y avait, même pour le twist qui paraît dérisoire, ben, c'était pour moi quelque chose de sacré. Ça venait d'ailleurs, j'étais émerveillé. Puis alors, je me souviens aussi de Johnny, Let's Twist Again.
Ouais, tout à
J'avais le
fait.
45 tours, Let's Twist Again. Alors, il y avait une face où il chantait en français Let's Twist Again, et puis après, à la fin, il disait, et en anglais maintenant, et on retournait le disque, il chantait en anglais. Et j'adorais ça. Donc voilà, c'est pour répondre à votre question, c'était le twist.
Alors, vous qui êtes né en 58 comme
Oui,
moi,
oui.
quels sont les premiers chanteurs et groupes à vous séduire dans les années 60 à 70?
Ah, alors bah, je vais vous faire une réponse extrêmement banale. C'était certainement les Beatles, parce que j'ai la chance d'avoir un grand frère qui est cinéaste bien connu et qui avait rapporté à la maison le premier grand disque que j'avais eu, c'était Rubber Soul. J'étais fasciné. J'étais fasciné par l'image, déjà, avec ses couleurs rouges, vert épinard et ses visages déformés comme anamorphosés. Et il y avait quelque chose dans cette musique, dans ces chansons, qui me faisait presque peur. Et je trouvais que ces visages, vous savez, ça me fait presque penser à ces statues de l'île de Pâques. Quelque chose de, c'était des géants descendus sur Terre, des géants d'un autre continent. Et puis le fait que c'était une langue que je ne comprenais pas, l'anglais, il y avait une façon de chanter qui avait quelque chose de presque extraterrestre pour moi. C'était des voix qui ne correspondaient à rien de ce que je connaissais. Et j'avais un autre frère, demi-frère, beaucoup plus âgé, qui lui écoutait justement l'opéra de Wagner. Et c'était une façon de chanter qui était tellement différente, plus naturelle, qui à nous enfants parlait. Et évidemment, tout ça, j'étais incapable de l'exprimer, de l'analyser, mais ça me hantait. Je ne sais pas, je sentais toutes sortes d'émotions. Cette musique était comme un ciel changeant. Il y avait le soleil, il y avait la pluie, il y avait l'orage, il y avait le vent, il y avait la lumière, il y avait les astres, enfin, il y avait tout. C'était un monde, c'était cosmique, en fait, cette musique-là. Et donc c'est voilà, ça c'est ça les groupes qui m'ont marqué. Et je vous dirais les Rolling Stones, Bob Dylan, c'est très évident tout ça. Mais j'avais aussi des 45 tours avec des groupes un peu moins connus qui me fascinaient, les Easy Beats, les Friday on My Mind, les Kinks bien sûr. Ça, je pense que le premier disque des Kinks dont j'ai été conscient, c'était Sunny Afternoon, je
Oui, tout à
crois.
fait, on s'appelle
Voilà,
Tony
hein,
aussi.
ouais. Et puis il y avait qu'est-ce qu'il y a? The Smoke, My Friend Jack, qui était une chanson qui passait à la radio.
Les Trucks,
Les Trogs, les Trogs,
les Yardbirds.
les Yardbirds. Oui, alors les Yardbirds, j'aurais pas trouvé un titre vraiment évident, mais les Trogs, oui, parce qu'il y avait I Can't Control Myself, que j'avais vu à la télévision. Mais c'était en même temps, il y avait Paul Naref, il y avait Dutronc, il y avait Antoine.
Antoine, oui, tout à
Oui,
fait.
Antoine, j'adorais Antoine, La Guerre. En fait, c'était du garage rock français. Hein.
Ah, oui, tout à fait.
C'était génial. Donc, enfin, j'étais très content. Alors, on parlait tout à l'heure du lien avec la politique, mais très vite, justement, moi, j'étais très sensible au côté contestataire, Antoine, ou insolent, comme chez Dutronc. Ou alors, il y avait même des chansons de mai 68, comme La Révolution par Évariste. Donc pour moi c'était quand même, il y avait ce côté transgressif, contestataire, quelque chose contre le monde noir et blanc des adultes, les contraintes, les ordres, les militaires, les profs, tout ça c'était... Enfin quoique les profs que j'ai connus quand je suis entré au collège, fussent, hein, c'est ça la forme grammaticale correcte, très liés... à la contestation. J'avais des profs gauchistes déjà en 70, 71, tout ça.
Et vous qui êtes passé par l'École nationale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, qui n'a pas comme vocation première de travailler la musique,
Non.
qu'est-ce qui vous a incité à vous orienter vers le monde
Ah
musical?
oui, c'est une bonne question. Ben vous savez, j'étais comme beaucoup de jeunes gens, j'étais inquiet de mon avenir et je voulais assurer mes arrières. Donc j'avais une terreur, c'était de ne pas gagner ma vie. Donc il fallait quand même que je me forme à un métier, quoi qu'il arrive. Et j'ai préparé le concours, j'ai eu la chance de le réussir. Mais néanmoins, j'avais une hantise, c'est qu'on m'envoie enseigner loin de Paris, loin de ce qui faisait de ce qui était ma passion, c'est-à-dire acheter des disques, aller à des concerts. Et en fait, dès que j'ai intégré l'école supérieure, que j'étais assuré d'avoir un salaire d'élève professeur et d'avoir quelques années tranquilles devant moi, bah, je me suis empressé d'essayer de placer des textes de critique, d'entrer dans ce monde qui était pour moi fascinant, parce qu'il me paraissait beaucoup plus excitant que le monde des études. Mais vous savez, c'est curieux parce que j'ai toujours gardé un pied dans chacun de ces deux mondes. Et c'est peut-être ça qui a fait ma spécificité finalement. Mais à l'époque, je le vivais comme une contradiction insoluble. Je me morfondais parce que d'un côté, quand j'étais dans le monde de la critique rock, avec des rockers et tout ça, j'étais un peu l'intello de la bande. Je détonnais. Et puis, pareillement, quand j'étais au milieu des étudiants en lettres, en philo, en histoire, etc., en anglais, qui, je sais pas, qui faisaient des thèses sur Spinoza, ou, etc., qui me parlaient de Jacques Derrida, moi, je lisais Barthes, enfin, j'étais dans ce monde-là, mais disons, j'étais l'excentrique qui allait à ces concerts bizarres et qui voyait ça, et pour qui c'était pas simplement une activité mondaine, pour qui c'était le centre de la vie. C'était parfois difficile de leur expliquer tout ça.
Vous êtes à la fois journaliste, scénariste, romancier, critique musical. Comment vous définiriez-vous?
Alors, vous savez, oui, scénariste, j'ai fait des scénarios à l'occasion, il y a très longtemps, mais je sais pas, ça n'a jamais été mon métier, c'était celui de mon père. Vous savez, en anglais, il y a un mot qui est « writer ». Writer. Et writer, c'est celui qui écrit. Il n'y a pas cette distinction, cette hiérarchie entre celui qui écrit des articles de critique rock, de critique littéraire, de journaliste sportif, et il fait des romans. En France, il y a ce cloisonnement qui fait que vous êtes un auteur noble quand vous êtes un écrivain, quand vous écrivez des romans. Bon, j'ai publié des textes littéraires qu'on peut considérer comme des romans, enfin, en partie. Puisque part très personnel et comment dire, enfin, c'est pas que les romans soient pas personnels, mais je veux dire plus des récits souvent autobiographiques. Bon, et donc je considère pas que ce soit plus élevé que ce que quand j'écris sur la musique. J'ai pu le penser peut-être il y a encore 35 ou 40 ans, ou même 30 ans, peut-être même 20 ans. Parce que vous savez, en France, écrire sur le rock, c'est une activité marginale. C'est une act Alors même si ça aujourd'hui, évidemment, vu que bah, les gens qui écoutaient du rock dans les années 70 sont notre âge et qu'ils occupent enfin, que j'ai connu plein de gens qui aujourd'hui occupent des postes de pouvoir, vous pouvez avoir des ministres, des directeurs de la SNCF ou je sais pas quoi qui sont des amateurs de rock. Il paraît que Mathieu Pigasse ne jure que par The Clash et les Sex Pistols. Bon, alors donc, bon, cette sous-culture, entre guillemets, est tout à fait revendiquée par des gens bien, entre guillemets. Pour autant, dans le monde de l'édition, eh bien, et même d'ailleurs pour beaucoup de lecteurs, si vous parlez de, je ne sais pas, des Talking Heads, ou aujourd'hui de groupes comme Idols ou je ne sais pas quoi, eh bien, bah, vous êtes dans une niche. Et parce que vous faites allusion à des choses que le grand public n'est pas censé connaître. Il y a quelques exceptions comme Virginie Despentes, etc. Je sais pas, curieusement, on tolère de certains auteurs que le rock soit leur deuxième, leur seconde langue, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Et donc, ce sont des éditeurs différents, des publics différents. Il faut l'accepter. Voilà.
D'accord. Par quel média avez-vous démarré votre voyage au pays du rock?
Eh bien, par le journalisme, j'ai publié mon premier article dans Rock et Folk, que vous deviez lire, j'imagine. C'était en 1980.
Je me suis fait piquer avec un Rock et Folk en études. J'étais chez les frères de la Monnaie et j'ai laissé tomber un Rock et Folk par terre.
Ah oui.
Et il y avait le Blue Oyster Cult,
Ah.
le culte de l'huître bleue.
Bien oui, Blue Oyster
Oh
Cult.
là là, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai eu le droit à faire signer toutes mes lectures dans le bureau du directeur après, parce que c'était impensable qu'en troisième,
On
on
lise
lise. Enfin, moi,
des...
j'y comprenais pas grand-chose encore à l'époque,
Oui.
mais je commençais à être branché
Oui.
musicalement,
Oui,
quoi.
Blue Oyster Cult. Ben oui, Puis tout ça était sulfureux, enfin,
Totalement.
oui, c'était les drogués, les marginaux, les bons à rien qui écoutaient ça, enfin, oui, ça c'est sûr.
Mais Rock and Folk existe quand même depuis 1966, il me
Oui,
semble.
c'est ça, c'était à l'origine, je crois, un supplément de Jazz Hot,
Oui, je crois,
oui,
ouais.
mais enfin, c'est plus du tout le même journal aujourd'hui,
Non,
hein.
non, non, non.
Ça n'a plus rien à voir. À l'époque, c'était un journal qui vendait à je crois, plus de 100 000 exemplaires,
Oui,
hein,
tout à fait, ouais.
mensuels.
Et pourriez-vous, je sais que ce n'est pas une question aisée, nous délivrer 4 ou 5 morceaux qui pourraient vous faire rentrer ce qu'ils souhaiteraient dans l'histoire du rock?
Ah, alors, c'est des chansons qui figurent déjà. Good Vibrations des Beach Boys, certainement. Je dirais Waterloo Sunset des Kinks, qui est pour moi une des plus belles chansons jamais enregistrées. Écrite et enregistrée. Je ne sais pas, je cite au hasard Love Will Tear Us Apart de Joy Division.
Je sais que c'est un de vos groupes fétiches.
Oui, parce que c'est le premier sur lequel j'ai écrit et ça a été une sorte de révélation pour moi.
Ouais.
C'est-à-dire que je ne savais pas quoi écrire, je ne savais pas sur quoi m'appuyer et je me suis élancé grâce à cette expérience que l'écoute de cette chanson, pas spécifiquement cette chanson d'ailleurs, mais tout ce qu'a pu enregistrer Joy Division et ce qu'a pu apporter ce groupe a pu éveiller en moi. C'est-à-dire que c'était un désir de mettre des mots sur un silence, que j'ai une sorte d'aphasie que j'avais par rapport à cette musique. Alors j'en ai cité 3, je ne sais pas... je sais pas, au hasard, Things Behind the Sun de Nick Drake, ça me fait toujours comme frissonner quand j'entends ça. Tellement de choses.
Mais je vais
le jeu jusqu'au bout et vous me dites 5. It's a Wonderful Life de Sparkle Horse, par exemple. Voilà.
D'accord.
Oui.
Merci. Alors, que pensez-vous du rock progressif de 69 à nos jours? En France, il y a eu Magma, il y a eu Ange.
Oui.
En Angleterre, il y a eu King Crimson, Genesis, Yes.
Oui.
Il y a eu d'autres encore.
Oh, oui.
Et est-ce que vous aimiez le rock progressif?
Ah oui, profondément. Et c'était pour moi, si vous voulez... un objet de fascination, parce que j'avais l'impression... Pour la première fois, de participer à quelque chose d'exaltant, qui était une aventure collective, en dehors de ce dont on me parlait à l'école, très loin de ce que mes parents pouvaient connaître, mon entourage proche, enfin, c'est encore une fois, j'utilisais cette image d'une autre planète. D'autant que ces musiciens avaient une vision à l'ampleur cosmique et elle nous mettait en contact avec une forme de sacré, certainement. Alors, justement, il y a eu une sorte de schisme, c'est-à-dire que bon, on parlait des Beatles, des Stones, tout ça c'était des 45 tours, des chansons, bien sûr les vidéos c'était des albums, mais enfin évidemment les événements c'était les chansons qu'on entendait à la radio. Bon, et là ces groupes arrivaient, faisaient des albums à thème. Qui ressemblaient à des poèmes épiques ou ça faisait référence au cycle arthurien, à des romans de science-fiction, des mondes parallèles comme Magma, c'était déjà la sorcellerie comme chez Van der Graaf Generator, enfin donc je pense que quand j'y pense, c'est une analyse a posteriori. On a grandi dans un monde, enfin en Occident, d'où le sacré avait été rayé. Alors bien sûr, vous me parlez du fait que vous avez fait vos études chez les frères, moi j'avais des amis aussi qui étaient dans des pensions catholiques, etc. Mais enfin, ce que j'en percevais, c'était le dogmatisme, la sévérité, la discipline, la répétition de prières rituelles, enfin, et très peu de spiritualité à partager avec les autres. Et là, il y avait une sorte, je dirais, de spiritualité sauvage qui s'est constituée. Et encore une fois, je l'analyse facilement à l'âge que j'ai atteint. Mais je me rends compte que je partageais une forme de croyance avec d'autres. Que cette musique nous mettait en contact avec des forces invisibles et qu'elle nous donnait des ailes et des super-pouvoirs. Enfin, c'était Marvel, de certaine façon. C'est vrai, on était des super-héros. Et Emerson, Lake and Palmer étaient comme des super-héros. Et puis c'était fascinant cette musique parce qu'en fait elle était à la fois très accessible et très savante. Ce sont des musiciens de conservatoire qui s'étaient dévoyés, qui s'étaient accoquinés avec parfois des autodidactes. Il y avait des poètes de faculté littéraire, il y avait des marginaux, il y avait des musiciens de free jazz. Enfin, de toute façon, ces musiciens étaient très marqués par la musique classique du XXe siècle. Bartok, tout ça, enfin, c'est
Debussy,
Debussy, Ravel,
Satie, peut-être.
Satie, certainement,
Oui.
certainement. Et ils mélangeaient ça, évidemment, avec aussi leur formation au jazz.
Et du courant de l'école de Canterbury,
Oui, ah mon
Soft
Dieu.
Machine, Hatfield and the North, Gong,
Ah, ouais,
Matching
comme
Mall.
on a écouté la même chose.
Oui, je trouvais ça merveilleux.
Ah oui.
Au tout début, je n'y comprenais rien et je me suis laissé emporter
Oui.
et je suis tombé dedans
Mais
littéralement.
c'est ça, c'est comme Obélix dans la potion magique. Enfin, c'est un monde de féerie.
Oui.
C'est un monde de féerie. Enfin, c'est. Vous qui êtes breton, vous devez exactement. Vous le savez intuitivement.
Robert Wyatt, un musicien de Soft Machine, à qui il est arrivé malheureusement un grave
Oui.
accident en 73, il me
Oui,
semble.
oui, 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 oui.
Il a perdu accidentellement l'usage de ses deux jambes.
Oui.
Lui qui a sublimé cet épisode douloureux par la musique, ce personnage attachant, compte-t-il pour vous?
Beaucoup. Beaucoup. Un des premiers groupes qui m'a marqué, c'est Soft Machine. Et j'adorais cette voix flûtée, à la fois, j'allais dire plaintive, mais sans douleur. C'est ça que je trouve beau, c'était une voix d'enfant. Une voix d'enfant en contact avec le merveilleux. Et avec cette liberté, ces volutes, enfin, c'était une voix qui était comme un instrument de musique en réalité,
Tout à fait.
avec laquelle il partait dans des solos. C'était du jazz.
Ouais, tout à
C'était
fait.
du jazz, mais il y avait pas cet esprit sérieux du jazz qu'il y a en France. Enfin, il y avait cette loufoquerie qui allait avec et cette légèreté. Vous parliez de gong, c'était tellement joyeux. Ils avaient tous des pseudonymes délirants. C'était des super-héros d'un genre farceur. J'adorais tout ce monde-là, tous ces personnages. Kevin Ayers aussi m'a beaucoup marqué.
Joy of a Toy
Joy of the
and
Toy.
Shooting at the Moon.
Oui. Et puis, ouais, il y avait cet album qui m'avait beaucoup marqué, qui était Banane Amour.
Ah oui, ça, je connais
Bah,
moins,
il y
celui-là.
a, y a une chanson qui s'appelle Décadence, qui est une de ses plus belles. Bah, vous savez, il était à cheval en fait entre une certaine chanson. Il y avait un côté folk chez lui, un côté presque musical, un peu archaïque comme chez Ray Davies des Kinks, et ce côté effectivement prog qui le caractérisait parce que c'était. Mais enfin, il avait, c'était vraiment un auteur de chansons, beaucoup beaucoup plus finalement plus universel peut-être.
Alors, une question d'un ami l'an dernier. Hein.
Oui.
Dans le courant du folk rock britannique,
Oui.
connaissez-vous la formation Fairport Convention?
Bah, évidemment que je la connais. J'achetais, vous savez, la plupart des disques Island.
C'est vrai.
Island, c'était vraiment la. On connaît surtout cette compagnie de disques parce qu'elle a révélé Bob Marley et avant ça Cat Stevens, mais là, elle était vraiment à la pointe du mouvement underground. Et Fairport Convention est un groupe extraordinaire parce que ça a été. L'équivalent au Royaume-Uni de ce qu'ont été les Byrds aux États-Unis. C'est-à-dire que ils ont recueilli des vieilles chansons traditionnelles du folklore anglais, gaélique aussi, enfin bon, ça je ne suis pas un expert, hein, mais enfin, c'est beaucoup de chansons traditionnelles, et ils les ont jouées avec les instruments du rock. Et ce télescopage a été vraiment merveilleux. Et d'autant que c'était d'excellents musiciens. Il y avait en particulier Richard Thompson, qui est un guitariste admirable, qui a fait une carrière.
Dave Pegg aussi.
Dave Peck, très, très, très bon guitariste, a joué avec Jeff Rothall après.
Tout à fait, oui.
Et il y avait, enfin, c'était, y avait la fluidité, la souplesse du jazz aussi
Il y
dans leur
avait
approche. Et il y avait comme Pentangle aussi.
Untangle,
qui était un immense groupe, enfin, qui était l'association, alors là, du folk et du jazz, avec cette guitare atonale, vous savez, parce qu'il jouait sur des gammes modales qui venaient d'Afrique du Nord, et c'est absolument merveilleux. Et on retrouve ça chez Led Zeppelin aussi, d'ailleurs, vous savez, dans tout le versant folk de Led Zeppelin est marqué par ce courant du folk jazz britannique.
D'accord.
Oui.
Alors, c'est le premier orchestre anglais fondateur du folk rock en 67,
oui,
qui joue toujours aujourd'hui.
Exactement, hein. Oui. Alors, il y a, je ne sais plus qui, il y a encore Simon Nicol, peut-être.
Peut-être.
Dave Swarbrick est mort.
Ouais,
ouais. Mais bon.
Serait-il envisageable de concevoir une émission sur eux?
Oui, certainement.
C'est
oui.
Mon ami dans
les rien. Oui. Non, mais je le comprends. Oui, ah bah oui, ça le mérite amplement. Après, il y a tellement de groupes historiques auxquels il serait opportun de consacrer des émissions spéciales.
C'est un monsieur qui a fini CPE dans une école,
oui,
qui était mon surveillant en première terminale, et qui passait tous les jours, il y avait sa platine, et il y avait un 33 tours.
C'était Fairport Convention.
Non, mais c'était Lavilliers, c'était les Doors, c'était...
Ah oui,
c'était tout.
Votre initiateur.
Mon initiateur, c'était Sir John Jean Bouguenac, en fait. Quoi.
Alors, parenthèse, vous savez qu'à un moment donné, il y a eu un Breton dans Fairport Convention, qui est Dan Arbrass.
Tout à fait, j'allais vous en parler.
Oui.
C'est un guitar hero,
oui,
breton.
Il joue avec Steven.
Tout à fait. Son meilleur ami, c'était... j'ai oublié son nom. Il est mort tragiquement. C'est Rory Gallagher.
Ah, oh, ça, alors là, c'est vraiment un musicien. Je vais vous dire, j'ai été bête quand j'étais plus jeune, parce que je suis passé à côté, ça me semblait, parce que j'avais des copains qui écoutaient ça, mais qui étaient fermés à d'autres musiques, alors ça m'énervait, et je snobais Rory Gallagher, parce que eux ignoraient Fairport Convention, ce qui est idiot, et j'ai redécouvert Rory Gallagher récemment, mais c'est un des plus grands guitaristes... De cette époque, enfin, mais parce qu'il avait en fait un éventail dans son jeu qui était absolument unique, parce qu'il était capable de jouer des gigues irlandaises comme le blues du Mississippi, enfin, et avec une il y avait une liberté dans son jeu, et puis quel chanteur aussi.
Mais bon, il a eu des problèmes d'addiction.
C'est l'alcool qui
l'a abîmé complètement.
Oui. Non, c'est
malheureusement.
Il est mort prématurément.
Prématurément, oui. En octobre dernier, vous avez consacré 4 émissions à un musicien que vous considérez comme majeur.
Oui.
Je veux parler de Brian Eno.
Oui.
Cet homme qui a visité toutes sortes de paysages musicaux.
Oui.
De 72, il a collaboré aux deux premiers albums de Roxy Music,
oui,
pour ensuite se livrer à de nombreuses expériences, oui, jusqu'à aujourd'hui. Quel parcours !
Extraordinaire, oui. Ah oui, à Eno, vous savez, ça vraiment, une des grandes émotions de ces dernières années, pour moi, ça a été de pouvoir l'interviewer. Je l'ai fait par Zoom, malheureusement, mais j'ai passé une heure avec lui, et c'était absolument captivant, parce qu'en plus, il est très drôle. Il a un côté farceur qui n'est pas forcément ce que le grand public connaît. Enfin, le grand public ne le connaît peut-être pas, mais enfin, le public connaît de lui. Et moi, ce que j'aime... Alors, il y a une chose qu'il m'a dite qui m'a beaucoup frappé. Vous savez, j'adore sa voix. Il a cette voix un peu impassible, vous savez, un peu... une voix blanche, un peu, vous savez, comme à la radio, il y a des gens qui ont des voix plus blanches que d'autres. Et je lui ai dit, mais finalement, vous avez travaillé avec des chanteurs très incarnés, comme Nick Cave, enfin même plus largement Bono avec U2. Et je lui ai dit, finalement, vous n'avez jamais été tenté de chanter de manière plus incarnée. Et il dit, mais pas du tout, parce que moi, ce que je considère que quand je chante, je suis comme un observateur, comme un journaliste. Et j'observe. Et donc, il a fait une analogie qui était très intéressante entre le soldat qui part à la guerre, Alors, ça serait le chanteur lyrique et celui qui fait la photo pour un reportage. Et il dit, celui qui fait la photo pour le reportage, il peut choisir une prise de vue et un cliché extrêmement émouvant qui vont remuer le monde entier. Et il dit, moi, c'est mon rôle. Je fais la photo. Et ma voix est une façon d'être présent, mais de m'effacer. Et je trouve que c'est une manière très poétique de définir son individualité de chanteur. Et ça m'explique pourquoi sa voix m'a tellement touché, parce que je me sens un peu comme lui. Vous savez, j'éclaire les autres. Et en éclairant les autres, je me rends compte que j'incarne aussi à ma façon quelque chose, puisque je les cadre, je les peins, je les montre, je les mets en lumière. Et c'est très pictural, parce que je pense que mon émission est picturale au fond, elle est très visuelle, parce que je fais des récits de vie. Et je m'imagine toujours les musiciens dont je parle comme des personnages dans un film ou une nouvelle. Je les vois évoluer dans un paysage, sous un certain ciel, dans de certaines couleurs. Ça peut être au crépuscule, ça peut être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, je me fais des films, comme on dit. Et c'est vrai, c'est très important pour moi.
À la fin de la troisième émission sur Brian Eno, vous lui
Oui.
posez une question significative.
Oui.
Quand vous quitterez cette terre, Brian Eno,
Oui.
quel est le son qui vous manquera le plus?
Oui.
Et de répondre, je crois qu'un des sons qui m'enchante le plus, c'est le bruit des enfants qui jouent.
Oui.
J'adore le bruit de la cour de récréation le matin.
Oui.
C'est celui-là qui me manquera, je crois.
Oui.
Et vous, Mishka, si vous me le permettez,
Oui.
quel sera le son qui vous manquera le plus quand vous quitterez également cette terre?
La voix des gens que j'aime, même mes enfants, mon frère, ma fiancée, les voix. Les voix, les. Ouais.
Oui, tout à fait. Non, mais
Le.
c'est logique.
Oui.
Vous qui êtes à l'antenne 4 fois par semaine pour animer Very Good Trip sur France Inter,
Oui.
mais comment faites-vous pour réaliser une émission aussi riche, d'autant de détails, d'anecdotes, de recherches?
C'est l'obsessionnalité. Vous savez, récemment, Laura Adler a rediffusé un enregistrement d'un entretien qu'elle a eu avec Paul Venn, le grand latiniste. Et elle lui a demandé quelle était sa définition de l'érudition. Il a eu cette réponse magnifique, il dit c'est la passion pour les choses inutiles. Et je la reprends à mon compte. J'ai une obsession des détails exacts. C'est-à-dire, je suis capable, si vous voulez, de passer un quart d'heure pour chercher la juste prononciation d'une bourgade au fin fond du Tennessee, de nom de famille, pour savoir si tel bled se trouve, je ne sais pas, dans une vallée, sur une montagne, au bord d'un lac, enfin. Parfois, je vais même faire des recherches Google Images pour voir à quoi ressemble la rue où habitent les musiciens. Vous voyez? Ah oui.
Alors, vous
Mais
êtes incroyable.
oui, mais c'est. Mais vous savez, c'est une forme de folie. Hein, je l'assume totalement. Vous savez, vous connaissez les aventures de Blake et Mortimer, et bien sûr.
Tout à
Bon,
fait.
eh ben, vous savez qu'avant que évidemment Google Images existe, Edgar P. Jacobs avait été bloqué pendant 3 mois sur une planche. Je vous donnerai. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à savoir à quoi ressemblaient des poubelles au Japon. Donc, il a voulu recevoir une photo de poubelle dans les rues de Tokyo parce qu'il ne pouvait pas dessiner sa scène. C'est un truc que je comprends totalement. Parce que on accorde, et à juste titre, beaucoup d'importance à l'imagination. Mais je pense que l'imagination n'a aucun intérêt si elle ne s'appuie pas sur l'exactitude. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Modiano, c'est la poésie des noms propres, des noms de famille extravagants. des noms de villages, de certains lieux-dits sur lesquels la rêverie se développe. Et c'est ce qu'on voit chez Proust aussi. Enfin, et c'est quelque chose qui m'a toujours nourri. Vous savez, surtout que moi, j'ai entendu parler beaucoup de langues étrangères autour de moi quand j'étais enfant. Ma mère était hongroise, donc j'entendais parler cette langue étrange chez moi. Et mon père avait des amis espagnols, italiens, allemands, etc. Et donc, pour moi, il y a une musicalité dans les langues, dans toutes ces prononciations particulières. Alors, il y a des gens qui parfois pensent que parce que je m'efforce de bien prononcer, il y a une part d'affectation, etc. Mais je ne suis pas d'accord. Je le prends. De toute façon, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, si on prononce mal un nom anglais, c'est comme jouer du trombone et faire une fausse note. C'est pas joli. C'est moche. C'est désinvolte, c'est de toute façon. Et puis il y a ce côté xénophobe, de toute façon, toutes ces langues étrangères, ça nous fatigue, quoi. Vous voyez, il pourrait pas s'appeler Martin comme tout le monde, quoi. Enfin, c'est.
En 2023, Mishka, quel est l'artiste ou le groupe pour qui vous vibrez et que vous êtes impatient d'interviewer?
J'aimerais bien interviewer Billie Eilish. Billie Eilish, vous voyez.
Attends.
Ah, c'est une très jeune chanteuse californienne, vous savez, qui est vraiment devenue vraiment la première star née au XXe siècle. Alors, elle a une manière, si vous voulez, bon, comment caractérise ce qu'elle fait, c'est un peu pop R&B, mais elle a une manière extrêmement intime de chanter. On a l'impression qu'elle vous chante au creux de l'oreille, et en même temps c'est très universel. Et donc elle m'intéresse beaucoup, parce qu'elle fait tout en chambre avec son frère. Et vous savez, moi j'ai jamais, surtout quand je fais cette émission, je veille à ne pas me cantonner à des musiques qui ne touche que des niches, des micro-publics, qui seraient vraiment opposés au grand public populaire. Je pense qu'il y a des choses très ennuyeuses dans les musiques de niche, et il y a des choses très passionnantes dans les musiques très populaires, voyez. Donc, après, bon, j'ai mes limites comme tout le monde, mais j'essaie de garder vraiment une oreille très ouverte. Après, c'est une question qu'on m'a toujours posée, mais je ne sais pas si j'aurais le même intérêt si je n'avais pas une émission de radio. C'est-à-dire que si du jour au lendemain ce que je fais s'arrête, est-ce que j'irai tous les jours chercher des sons et des voix nouvelles? La réponse est sans doute non. Vous voyez? Mais comme on dit, la fonction crée l'organe. Voilà.
Vous, à qui on doit, avec un certain nombre de collaborateurs, le dictionnaire rock
Ah
de
oui.
A à Z, paru en 2000, un ouvrage de référence, réédité en 2014, si je ne m'abuse. Je le possède chez moi, c'est une véritable Bible. Donc, quand je me pose une question sur un groupe ou un chanteur, je m'y plonge et j'obtiens quasi instantanément la réponse. C'est magnifique. Le dictionnaire du rock, blues, country, folk, pop, reggae, rock indépendant, soul. Aux éditions Bouquins chez Robert Laffont. Et donc tout ça fait 1216 plus 1088 pages. C'est un travail colossal.
Ah oui.
Alors Mishka, avez-vous l'intention d'en écrire un autre?
Écoutez, non, honnêtement, je crois pas que j'aurai la force de me consacrer une troisième édition. Ça m'a quand même bouffé une grande partie de ma vie. Et le danger de l'obsessionnalité, c'est que ça peut devenir un siphon, un maelstrom qui vous aspire. Et ça me fait peur parce que les années qui sont devant moi sont pas aussi nombreuses qu'avant. Et j'espère les employer à m'ouvrir peut-être à de nouvelles expériences, voyager, etc. Mais je ne désespère pas de confier le bébé à quelqu'un d'autre et de superviser ben peut-être d'un peu plus loin.
Alors, évidemment, il y a plein de gens qui me. De personnes, de musiciens qui m'interpellent. Je suis un fan de PJ Harvey,
Ah
par exemple. Portishead, j'aime beaucoup également. Il y a plein de gens dont on n'a pas parlé, évidemment,
Ah
parce que
ben, comment voulez-vous? Comment voulez-vous?
c'est un monde colossal.
Oui, bien. Oui, bah oui. Et puis on ne cesse de faire des redécouvertes, parce qu'il n'y a pas que les nouveautés, il y a aussi les choses du passé qui remontent à la surface.
Alors hier soir, je vous ai écouté, vous étiez à l'Olympia.
Oui, Phoenix.
Et Phoenix, j'ai trouvé ça excellent.
C'était vraiment bien.
Ouais, tout
Mais
à
oui,
fait.
c'était bien. Mais vous savez, alors là, voilà l'exemple même du groupe à côté duquel je suis passé, parce que j'étais pas sensible spécialement à la French Touch. C'est un peu. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission jusqu'au bout, mais je leur ai un peu parlé.
Aussi,
Ouais, voilà. Et à
ouais.
la fin, je leur ai dit très honnêtement que j'avais été choqué au début parce qu'ils mélangeaient des choses qui, pour les puristes dont j'étais, étaient incompatibles. C'est-à-dire, je ne sais pas, une chanson des Smiths avec des sonorités de rock des années 80, FM grand public, et des sons de sac, des trucs de saxophone, jazz rock, des trucs à la Cérone, ou je ne sais pas. Vous voyez, c'est un peu, moi, un peu des greffes monstrueuses, vous voyez. Et en fait, je suis obligé d'admettre que ça marche et que c'est très heureux, c'est très joyeux. Et qu'il y a une beauté qui naît de ces espèces de collages un peu infantiles. Et ils sont tellement charmants, et ça se sent dans leur musique.
Très bien. Alors, Françoise Hardy chantait Étonnez-moi, Benoît. Nul besoin de vous le demander, car de 21h à 22h, vous nous transportez, Mishka, du lundi au jeudi sur France Inter.
Merci. Bah, écoutez. Ça me fait rougir. C'est
Non,
très très gentil.
mais je tenais à vous le dire
Oui.
parce que vous avez collaboré, je pense, avec Bernard Lenoir à une
Oui, il y a
époque,
longtemps.
avec peut-être Patrice Blancafort aussi.
Je n'ai pas collaboré, je l'ai
Non.
croisé, mais je ne l'ai
Oui,
pas
oui.
collaboré, non.
Et donc, c'était des gens que j'écoutais quand
Ah oui.
j'avais 18-19 ans,
Bah moi
quoi.
aussi,
Voilà.
vous pouvez imaginer. Oui, moi aussi. Ah ben ça. Mais vous dire, c'était une autre époque où c'était vraiment. Moi, j'interviens à la radio dans un contexte tout à fait différent. Vous comprenez, on parle d'une époque où, pour savoir tout simplement ce qu'étaient les nouveaux sons, les nouvelles musiques, les nouveaux groupes, il fallait écouter ces émissions parce que c'était des sources d'informations presque exclusives. Bon, aujourd'hui, je dirais, personne n'a besoin de moi pour savoir ce qui sort. Les gens vont se renseigner sur des sites. Enfin, voilà, y a des plateformes de streaming. Y a toutes sortes de sources d'informations. Mais moi, disons que j'ai une position qui est plus maintenant, en effet, d'historien, d'encyclopédiste. J'ai l'âge que j'ai, donc et j'en tiens compte.
Vous êtes un éveilleur de conscience,
Voilà,
voilà.
donc j'essaye de faire revenir à la surface des choses qui ont pu me paraître importantes. Et puis je suis un esthète, quoi, qui
Voilà.
pioche
Voilà.
dans ce qui sort, ce qui lui plaît. Alors que et Bernard et Patrice Blanc-Francard avaient un rôle peut-être presque plus social, dans le sens où ils défendaient. Enfin, ils avaient un devoir d'informer sur ce qui se passait. Ils offraient un panorama. Et ils évoluaient finalement au goût comment dire, ils suivaient un peu l'évolution des goûts, quoi, et ils défendaient certaines musiques, après en avoir défendu d'autres, ils pouvaient se contredire, etc. Moi, j'évolue dans un paysage qui est pacifié. Avant, il y avait des guerres de religion, il y avait des sectes. C'est un peu ce que je disais par rapport à Phoenix. C'est-à-dire que si vous écoutiez les Smiths, vous ne pouviez pas aimer Toto, etc. C'était pas possible. Bon, aujourd'hui, je ne dis pas que je suis fou de Toto, mais j'écoute ça aujourd'hui. Je dis oui, pourquoi pas? Enfin, je me dis, il y a peut-être telle chanson. Vous savez, il y a un groupe auquel je vais consacrer l'émission de ce soir, parce qu'on a appris la mort de sa chanteuse et batteuse, qui est Lo, Mimi Parker. Et bien, Lo, alors, qui vient vraiment du post-grunge, expérimental, etc., a repris Africa de Toto, par exemple. C'est une version qui est magnifique. Donc, justement, j'aime que faire une émission à une époque où les cloisons ont disparu et où tout peut avoir sa chance, d'une certaine façon. C'est très stimulant.
Eh bien, écoutez, Mishka, je tiens à vous remercier infiniment de ces moments de grâce, j'ai
Oh,
envie de dire.
enfin.
Et puis, j'ai envie de remercier aussi Marie de France Culture.
Ben oui, je vous remercie Marie de nous avoir mis en contact. Et puis, puis surtout, quand même, je vous remercie d'être venu d'aussi loin. Parce que je connais, vous savez, je m'intéresse. Quand je vous parlais de géographie, je sais où est Brest. Et je sais que pour venir à Paris, c'est pas la porte à côté, quoi.
En préambule à cet entretien, je souhaite remercier Marie Dalquier de France Culture qui a initié cette interview. Je désire également remercier Pierre et Michel, mes cousins amateurs de rock, chez qui je passais chaque jeudi après-midi à écouter la jeunesse du rock, et trois chers amis d'Andernau, il s'agit de Jean, Sir John, le collectionneur de presse rock, de 1973, donc Jackie, l'homme aux 22 045 tours, et Rémi, l'homme qui m'a initié à tout ce qui touche aux lettres, arts et spectacles, sans oublier ma grande amie Laurence, qui reste une véritable esthète de la rock music et qui a commis un beau livre, 1973, l'excellence rock. Qu'ils en soient tous remerciés.